Alors, pour les archéologues, Jean-Baptiste Imbert ou Marc-André Haldimann, le fait que Gaza et la région aient été provinces des pharaons grecs, byzantines, qui aient connu toutes les différentes passages des musulmans, des chrétiens, des juifs et autres, est-ce que parler de cette séparation, ce n'est pas un petit peu incongru sur le point de vue archéologique?
J'ai l'impression qu'on ferait quand même une erreur assez radicale en pensant séparation, origine différenciée, grand moment de l'histoire avec des mouvements écartés. Non, je ne crois pas. Moi, mon slogan que j'ai toujours dit aux gens de Gaza en essayant de les convaincre, je leur ai dit, attention, vous vous plaignez peut-être d'avoir été toujours sous domination romaine, hellénistique, perse, néo-assyrienne, égyptienne, enfin et la suite. En fait, vous, gens de Gaza, vous n'avez jamais bougé ou presque jamais bougé. Donc les gens de Gaza, c'est vous depuis toujours. Même si vous avez changé de religion, même si vous avez changé de gouvernement politique, les gens de Gaza, c'est vous.
Et c'est sur un territoire relativement restreint, puisque vous avez aussi fait des recherches à Qumran, où on en a trouvé les manuscrits de la mer Morte. Toute cette histoire tient entre Gaza et cette partie, entre 100 et 150 kilomètres.
Écoutez, moi je ne suis pas suisse, hein, mais si j'étais suisse, je crois qu'entre Genève et les hauteurs des Grisons, il y a quand même des différences culturelles assez sensibles. Donc je pense que la Palestine a joui, tout le Levant a joui de grandes différences culturelles, même linguistiques, d'une vallée à l'autre, hein, comme c'est le cas dans les pays un peu reculés et qui n'ont pas été touchés directement par les grands mouvements de la civilisation occidentale. Donc Gaza est là, Qumran est là, Jérusalem est là, et Césarée est là, et tout le monde est là. Finalement, il suffit d'accepter la leçon de l'histoire.
Et donc Gaza était à cette époque, il y a à peu près 2000 ans, une des plus importantes villes de cette région. Ou un des plus importants ports.
Alors, je crois que c'est Plutarque qui dit, non, Gaza, la plus grande ville de Syrie. Alors ça choque un peu nos oreilles occidentales, mais la Syrie allait jusque-là. La Syrie touchait la frontière d'Égypte, et effectivement Gaza, peut-être à cause de cela, à cause de sa position exceptionnelle sur le passage, était devenue une très grande ville. Je crois, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, je crois, de grande en surface, parce que c'était des villes-jardins. C'était une oasis où il y avait tous les 200 mètres, tous les 300 mètres, il y avait un pâté de maisons plus ou moins luxueux, mais voilà, la ville de Gaza était quand même très étendue.
Et parmi, donc, dans des fouilles que vous avez effectuées dans cette région, quelles sont les pièces, les objets les plus représentatifs, les plus importants que vous avez découverts?
Oui, l'archéologue ne cherche pas forcément des objets, même si tant d'années de travail débouchent sur une exposition à Genève, Nous cherchons plutôt l'histoire et bien nous trouvons ce que le potentiel archéologique de Gaza veut bien nous livrer. Donc les moments les plus importants que nous avons touchés, c'est le moment où la puissance néo-assyrienne va jusque-là, 8e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, et cherche à faire un glacis stratégique et bien défendu contre l'Égypte. Je pense que c'était assez réussi. Le deuxième moment qui était un peu surprenant pour nous sur le moment, mais il aurait fallu que nous lisions pour savoir que c'était acquis d'avance, c'était de trouver une influence grecque à la fin du 6e siècle, 5e siècle. On a l'impression d'être en Grèce, avec toute la bimbloterie des Grecs qui était là. Donc on lit cela comme une espèce de nouvelle fécondation de la Philistie ou du Levant par les bateaux grecs. Et puis, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, et c'est ce qui nous retient, et ce qui probablement est à l'origine du projet de musée aujourd'hui, nous avons trouvé une maison hellénistique, peut-être du 3e siècle avant Jésus-Christ, ou du 2e siècle avant Jésus-Christ, dans un très bon état, qui est probablement une des plus anciennes maisons au mur peint autour de la Méditerranée. Donc tout le monde s'est un peu ému, et l'idée de musée est née de là.
Et en même temps, donc, Marc-André Haldimann s'inscrit dans les recherches qui ont été effectuées par des Suisses depuis les années 1880, je crois.
Ah, disons que Genève, le lien entre Genève et le Proche-Orient archéologique est ancien. C'est Max van Berchem qui, à partir de 1889, découvre l'Orient progressivement. Et à partir de 1893, on le voit en activité à Jérusalem même, où il va en tant que chercheur genevois, développer une nouvelle branche de l'archéologie qui est l'archéologie islamique. C'est un terrain qui n'avait jamais été abordé jusqu'à présent et c'est lui qui l'a réellement lancé par son étude exemplaire des mosquées du Dôme du Rocher et d'Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. En plus, il a créé un corpus de toutes les inscriptions arabes de la vieille ville de Jérusalem et par extension ensuite de la Palestine. Donc il a été fondateur d'un domaine de recherche totalement nouveau. Depuis lors, les Genevois ne sont pas restés à Genève. Il suffit d'évoquer Charles Bonnet, ancien archéologue cantonal, qui depuis 43 ans fouille chaque hiver, et je le salue maintenant parce qu'il y est, au Soudan, dans la ville de Kerma, et c'est par son entremise que j'ai pu découvrir moi-même la Jordanie en 1988 pour aller explorer la transition entre la fin de l'Empire byzantin et le début de la période islamique. Et c'est en fait grâce à lui que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Baptiste Imbert au détour de deux sites que nous fouillons respectivement et qui ont eu le bonheur d'être détruits au même moment, de manière violente, ce qui fait que les habitants n'ont pas pu emporter les objets. Et ça a été le début d'une longue histoire puisque nous nous retrouvons ensemble autour de ce micro.
Et l'on cite souvent à Genève les fameuses amphores qui proviennent de Gaza.
Le vin de Gaza. Grégoire de Tours et Isidore de Séville témoignent eux-mêmes, déjà au 5e et 6e siècle de notre ère, qu'il n'y a point d'autre vin de messe digne de célébrer l'importance de l'Eucharistie que le vin de Gaza. Pourquoi ? Parce que Gaza est le plus grand vignoble développé à proximité des lieux saints. Et effectivement, on se rend compte dans cette antiquité tardive que les amphores de Gaza voyagent très loin. Il y en a deux qui ont été retrouvées ici sous la cathédrale de Saint-Pierre à Genève. D'ailleurs, celle qui est entière accueillera le visiteur lorsqu'il viendra découvrir l'exposition, comme témoignage simple que déjà à partir de 457 de notre ère, en l'occurrence, le vin de Gaza était importé jusqu'à Genève. Et nos collègues valaisans nous soutiennent puisque l'autre endroit où on a retrouvé des amphores de Gaza, c'est à Sion, ce qui prouve déjà aussi l'ancienneté des liens entre Genève et Sion. C'est une affaire alpine et entendue.
Est-ce que le développement du christianisme a eu un effet, justement, vous parlez du vin de Gaza comme vin de messe, dans ses rapports commerciaux et les échanges ?
C'est absolument, au point de vue commercial, on voit l'importance des échanges qu'il y a, en fait, même entre l'Égypte et l'Europe occidentale, même entre le Proche-Orient et l'Asie mineure et également l'Europe occidentale. C'est un moment où, au fond, la Méditerranée n'est pas séparée. Elle l'est politiquement parce qu'il y a l'Empire byzantin qui se trouve dans la partie orientale de la Méditerranée et l'Empire romain d'Occident, chez nous, avec une ligne de fracture qui passe par Ravenne. Et au dépit de ces divisions, la Méditerranée est un vaste marché commun, où du nord au sud et de l'est à l'ouest, les gens échangent. Et les témoignages qui nous sont conservés, ce sont les objets qui ont été manufacturés autour du bassin méditerranéen qui arrivent chez nous. Par contre, nous savons, et ça on le sait par les auteurs antiques, que les salaisons, par exemple des Alpes, ou bien les textiles qui étaient produits par les Séquanes, s'exportaient également ailleurs en Méditerranée, simplement, et les jambes et les viandes séchées, en traduction claire, des Alpes, et le miel des Alpes, très réputé. Et le sapin qui était utilisé pour la construction navale et les textiles, eux, ont disparu, ne se conservent pas. Donc ça crée un déséquilibre, mais on est à peu près sûr que les échanges étaient dans toutes les directions.
Mais les archéologues ont également trouvé en Palestine des amphores gauloises. Donc il y avait un échange de vin déjà.
C'est vrai. Au 3e siècle de notre ère, les amphores gauloises 4 se rencontrent également en Palestine, mais elles vont bien plus loin, on les rencontre jusqu'en Inde. À côté de Pondichéry, on retrouve des amphores qui ont été fabriquées au 2e siècle de notre ère dans le Var. Salelle d'Aude, pour être précis.
Et je crois que les mosaïques se font aussi partie de cette exposition.
Effectivement, alors ça fait le bonheur de ma collègue Marielle Martignani-Rébert, qui est une byzantinologue éminente, et grâce au travail qui a été fait par la mission conjointe de l'École biblique et archéologique française et du département des antiquités palestiniens, une mosaïque de 24 mètres carrés sera présentée dans l'exposition. Si je ne me trompe, elle a été inaugurée solennellement le 21 avril 546 de notre ère.
Et quels sont les thèmes développés ? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la vie à l'époque ? Jean-Baptiste Imbert.
On apprend surtout que la Gaza byzantine était très développée, et même en avance sur la Jérusalem byzantine. Donc Gaza possède certainement un nombre considérable de monuments chrétiens, basiliques, chapelles, couvents, et que nous n'allons trouver qu'une infime partie. Et peut-être que là, il faut lutter de vitesse avec les promoteurs et les constructeurs pour essayer d'en sauver le maximum. Mais les pavements de Gaza sont très divers. Vous savez, tout dépendait du promoteur qui payait le pavement. C'est comme un tapis que vous achetez dans la boutique. Là. Vous pouvez acheter une carpette devant la salle de bain ou vous pouvez acheter un superbe tapis pour mettre dans le salon, accueillir les invités. Donc vous avez des tapis très simples, mais vous en avez qui sont immenses et de très très haute qualité. J'insisterai pour dire que ce qui intéresse le plus pour le moment, c'est de retrouver des tapis historiés qui racontent quelque chose. Et, en particulier sur la présence des animaux, des oiseaux, des lapins, des chameaux, le chapitre si particulier de l'abondance des girafes et des éléphants sur les pavements de Gaza. Donc ce qu'on appelle le paysage exotique ou le paysage éthiopien vient jusqu'à Gaza et on en trouve les traces. Donc tout cela est source d'histoire, source toujours de réflexion, d'aller toujours plus loin et de comprendre toujours plus combien Gaza était inséré dans tout ce monde et oriental et africain, parce que justement à la charnière.
Et les fouilles sont récentes, enfin elles datent à peu près d'un siècle, est-ce juste? Je voudrais savoir, est-ce que le terrain vous permet, qui n'a pas été fouillé, de trouver des objets par exemple en bon état de conservation?
Oui, on aurait une très mauvaise idée de ce qu'est la bande de Gaza si on n'y voyait qu'une banlieue à peu près en flammes ou couverte d'ordures. Mais il ne faut pas oublier que Gaza quand même fait à peu près 38 km de longueur. C'est peu, mais c'est suffisant pour avoir conservé quand même de très belles oasis, de très beaux jardins qui sont fertiles et cultivés aujourd'hui et qui produisent des fruits et des légumes extraordinaires. Donc vous avez des sites archéologiques aussi qui sont très bien conservés. Pourquoi ? Parce que il faut bien se souvenir que Gaza est une zone de sable. Tout le littoral est couvert par des dunes et les dunes, les vraies dunes, bougent. Donc ce sont des dunes qui parcourent au fil des années, des siècles, qui parcourent la bande de Gaza. Donc ce qui s'est passé, en une phrase, c'est que dans l'Antiquité, au cours des siècles, les gens qui habitaient ici ou là, un jour ou l'autre, ont été surpris par la dune, se sont enfuis et les sites sont ensablés. Il suffit que vous enleviez la dune, et bien vous trouvez le site intact. Et c'est peut-être le miracle de Gaza, pour l'archéologue.
Et comment se déroule le travail de l'archéologue dans la situation que l'on reconnaît actuellement, que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire c'est certainement pas un havre de tranquillité que de travailler dans un pays en guerre?
Oui, pays en guerre, vous savez, oui et non. Disons qu'il y a un conflit, guerre, je ne sais pas. Il n'y a une armée que d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez une guérilla. Là, je ne m'engage pas non plus sur le fond, mais vous pouvez passer des jours très heureux à Gaza sans souffrir. Hein. Le travail se déroule professionnellement d'une manière très agréable. J'ai l'habitude de dire que j'ai fouillé dans un certain nombre de pays en Orient. Gaza est certainement les fouilles les plus heureuses et les plus agréables que j'ai jamais faites.
Marc-André Indimène, cette exposition, comment allez-vous l'aborder? Est-ce qu'il y a un thème principal? Est-ce que ce sont des visions des différentes recherches que vous avez effectuées à Gaza? Comment qu'allons-nous découvrir en avril?
En fait, le titre de l'exposition le dit, c'est « Gaza, la croisée des civilisations ». Gaza est un carrefour par excellence et ce que nous allons proposer avec Marielle Martignani-Reber et Matteo Campagnolo, c'est au fond une narration au fil du temps. Nous allons partir des périodes les plus anciennes qui nous emmènent jusque vers 3500 avant Jésus-Christ, pour explorer ensemble avec le visiteur et la visiteuse la succession des civilisations dont on retrouve des traces à Gaza. Au-delà d'une présentation géographique, qui d'ailleurs est placée sous la responsabilité de Danielle Descrouet, notre dynamique directrice du Muséum d'Histoire Naturelle, et qui va expliquer au public ce qu'est la mobilité du rivage, la question de la dune qui se déplace, comme l'évoquait Jean-Baptiste tout à l'heure. Nous allons donc découvrir que l'Égypte a fait de Gaza sa place forte, sa frontière nord contre les autres civilisations syro-mésopotamiennes. Et au fur et à mesure qu'on arrive dans les périodes plus classiques, comme l'a mentionné Jean-Baptiste, les périodes néo-assyriennes, perses, eh bien, c'est l'Occident qui se fait sentir de plus en plus. Et quand j'entends par Occident, c'est la civilisation grecque qui vient. Donc le public genevois va pouvoir découvrir qu'à vers 500 avant Jésus-Christ, la vie quotidienne de Gaza ne se distingue plus vraiment de ce que serait la vie quotidienne à Athènes ou en Asie mineure, en Carie, en Lycie. Donc, on a une sorte d'énorme impact de la civilisation grecque qui se joue. Ensuite, bien sûr, il y a l'histoire événementielle. Donc, on découvrira qu'à partir de la conquête d'Alexandre, eh bien, effectivement, c'est la civilisation hellénistique qui s'impose. On va construire des maisons dont le décor est à l'identique de celui qu'on va retrouver en Grèce. C'est important de le souligner. Donc on continue à vivre dans un monde qui est totalement imprégné de la civilisation grecque. D'ailleurs, l'écriture elle-même sera réalisée avec l'alphabet grec. Bien ensuite l'époque romaine et ses réorganisations, donc on découvrira l'ampleur des monuments qui sont réalisés à ce moment-là. Le public pourra aussi découvrir l'ensemble, et c'est une maquette exploratoire au fond, de ce qui attend encore Jean-Baptiste Imbert sur le terrain, c'est-à-dire l'ensemble du port de Gaza, d'après les éléments qu'il a pu découvrir au fur et à mesure que les fouilles avançaient avec ses collègues palestiniens, avec toutes les zones qui sont encore vides et qui appellent donc à être fouillées pour qu'on connaisse ce port antique. Enfin, et c'est la partie que gère directement Marielle Martignani-Rébert, eh bien, ce sera les splendeurs du monde byzantin, donc la mosaïque qu'on vient d'évoquer, mais aussi des sarcophages en plomb, mais aussi des colonnes et des chapiteaux qui viennent de ces basiliques paléochrétiennes que nous avons évoquées ensemble. Et puis, il ne faut pas oublier les splendeurs et les raffinements de l'art islamique qui se développent à Gaza à un haut niveau. Donc, on aura des témoignages qui nous amènent en fait précisément jusqu'en août 1917. Pourquoi cette date ? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là que s'est jouée la dernière bataille de Gaza où les armées britanniques ont réussi à casser la résistance de l'Empire ottoman pour se lancer à la conquête de Damas. Et comme témoin, eh bien, Jawdat Roudari, notre collectionneur de Gaza qui met à disposition cette magnifique collection qu'il a rassemblée au cours de ces 20 dernières années, a découvert par le biais de ses équipes de construction une colonne byzantine retaillée en colonne funéraire à la mémoire du lieutenant Fastlandslow, c'est un lieutenant des lanciers du Bengale qui est décédé à Gaza en 1917.
Et comment se passe sur le terrain le travail justement des archéologues, puisque dans un pays où l'archéologie est respectée, comme en Italie, on voit qu'à Pompéi, il y a encore nombre de tombaroli qui pillent les tombes. Est-ce que on voit le pillage de l'Irak, où donc une grande exposition doit faire le tour, en faire un tour du monde cette année? Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une compétition pour rechercher des objets? Est-ce que ils sont protégés? Est-ce que les sites des fouilles sont sûrs? Jean-Baptiste Imbert, comment se passe la réalité sur le terrain actuellement?
Je ne pense pas que les pilleurs de tombes soient à Gaza aussi bien organisés qu'en Italie ou en Grèce. Je crois que la bande de Gaza, je le répète, est un territoire très étroit où les gens construisent. C'est une des densités démographiques les plus fortes du monde. Donc les gens veulent se loger, veulent vivre. Et les maisons poussent vraiment comme des champignons. S'il y a une idée, un concept de ville champignon, c'est Gaza. Eh bien, il suffit de trouer le sous-sol et vous trouvez des vestiges archéologiques. Bon, les gens un peu plus futés savent qu'ils peuvent en tirer des petits sous, hein, pas grand-chose, mais enfin c'est mieux que de rejeter à la mer, si bien que vous avez un petit pillage, mais qui n'est pas important. Le deuxième aspect du marché, si vous voulez, des antiquités, c'est tout simplement, eh bien, les promoteurs qui trouvent des objets plus importants, comme des chapiteaux qui sont très recherchés, même en Occident, et des colonnes, des objets de marbre, des tables, des fragments de chancelles, tout cela est assez vendable et circule sur le marché. Si bien que grâce à l'intelligence, grâce à la vigilance de certaines personnes à Gaza plus éclairées, plus sensibles à cet aspect du patrimoine, de leur patrimoine, eh bien, un certain nombre de personnes ont décidé de récupérer tout ce qui pouvait intéresser le futur musée de Gaza. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous n'avez pas de vrai pillage contre lequel il faudrait lutter. Vous avez du grappillage et vous avez du sauvetage.
Et la population moyenne est fière de ces fouilles et de ce qui est découvert, peut-être.
Ça, c'est un grand chapitre, assez difficile à saisir. Bon, je défendrai Gaza. Nous avons décidé de centrer notre action sur la volonté de changer dans les médias l'image de Gaza, qui peut être une belle image, même si elle souffre un peu, c'est une belle image. Et il ne faudrait pas croire que Gaza est idyllique non plus. Gaza souffre, et comme me disait quelqu'un, Jean-Baptiste, tu as raison, c'est bien, mais avant de faire de l'archéologie qui est un luxe, il faut quand même nourrir les gens, soigner les gens, leur donner une éducation. Après, quand on aura accompli tout cela, on pourra peut-être leur faire de l'archéologie. Moi, je lui ai répondu, mais attention, parce que le patrimoine s'épuise. En même temps, il n'est pas conservé bien. Mais il est vrai que dans la plupart des cas, j'ai parlé des gens intelligents, sensibilisés au patrimoine de Gaza. Il y a le petit peuple qui, lui, cherche à se nourrir, se soigner, s'instruire. Et que, finalement, le patrimoine, l'idée d'histoire, et l'idée d'avoir des racines aussi profondes et aussi flatteuses que les pays environnants ne les atteint pas encore. Mais, je dirais, pour finir, m'a beaucoup frappé ce petit événement qui m'a beaucoup touché finalement, d'une dame qui passait tous les matins avec son fichu et son cabas, qui allait faire ses courses au marché, et qui, le chemin étant plus court, passait au long des mosaïques que nous découvrions. Et un jour, alors, j'ai entamé la conversation avec elle, et elle me disait, non, je suis très fier de ce que vous découvrez, je suis très fier de ce que vous faites, parce que ça, je sais que ce sont mes ancêtres qui les ont faites.
Et un personnage autre est aussi très important, c'est le collectionneur dont vous avez parlé plusieurs fois lors de cette émission.
Oui, qui est un des piliers de l'exposition.
Et c'est lui qui a donc donné, si on peut dire, un coup d'envoi ou qui vous a permis d'entrevoir une exposition de par le nombre de pièces que lui avait sauvegardées.
Oui, je dirais alors que comment suis-je entré en contact avec lui? D'aucuns peuvent soupçonner que c'est quelque chose d'assez occulte, mais pas du tout, parce que cet homme qui est un excellent ingénieur, avec une formation ingénieur à haut niveau, a acheté peut-être sans grand discernement beaucoup de choses, et tout n'a pas la même valeur.
Lui, il l'a acheté pour la valeur,
oui, croyant sauver. Alors, il m'a invité un jour, timidement, il était prudent, il m'a montré une ou deux petites choses en me disant qu'est-ce que c'était, de quelle période on pouvait dater ces objets-là, quel était leur intérêt, etc., etc. Et finalement, comme il a eu confiance, il a ouvert sous nos doigts toute la collection. Alors, je dirais que dans une certaine mesure, je l'ai aidé à apprécier mieux ce qui pouvait éventuellement passer entre ses mains.
C'est donc cette collection d'amateurs, pourrait-on dire, que nous allons voir en avril, Marc-André Diman.
Tout à fait, mais là, je dois dire que Jean-Baptiste a réussi un de ces miracles dont il est coutumier, puisque lorsque nous sommes arrivés avec Marielle à Gaza le 23 avril 2005, déjà le lendemain de notre arrivée, il nous disait « Venez, je vais vous amener dans un jardin qui n'est pas ordinaire ». Et effectivement, il nous a amenés à la résidence de Jawdat Roudari, et on s'est retrouvé en fait face à un musée à ciel ouvert. Donc après avoir vu la veille ou le matin même l'ampleur de tes fouilles, Jean-Baptiste, sur le site d'Antédon, ancien port de Gaza, eh bien l'après-midi, on se rendait compte que les collections qui ont été soigneusement accumulées par Jawdat Roudari présentaient un éventail remarquablement complet sur plus de 4 millénaires de l'histoire de la bande de Gaza. Et c'est une histoire qui ne sort pas fréquemment dans les fouilles, puisqu'il s'agit souvent de récipients entiers, et on sait à quel point les objets peuvent être fragmentaires dans une fouille, mais aussi des éléments d'architecture, chapiteaux, colonnes, comme tu l'as évoqué, et à partir de là, eh bien, on s'est rendu compte que l'idée même de préserver ce patrimoine, en préservant d'une part ce que Jean-Baptiste et la mission conjointe franco-palestinienne mettaient au jour sur le site même du port antique, et d'autre part des objets qui étaient découverts dans ces fouilles et ceux préservés par Javdat Roudari, donnaient le noyau central d'une mémoire qui devait être mise en valeur. Effectivement, les fouilles, eh bien, ce sont des moments ponctuels. On découvre, puis ensuite, on doit remblayer pour cacher, pour protéger, mais j'entends dans le sens protéger contre l'érosion, les vestiges mis au jour. Et il faut, pour que la mémoire soit durable et puisse être présentée de manière durable, qu'il y ait une institution qu'on appelle musée. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut mettre les vestiges mis au jour à l'abri sous un bâti. Et avec la richesse de ce que nous avons découvert dans le jardin et dans la résidence de Javdat Roudari, on avait vraiment le socle du futur musée archéologique de Gaza. Donc en l'espace de 36 heures, en gros, eh bien, on voyait se dessiner tout à coup un avenir qu'on n'aurait pas pu imaginer pour Gaza a priori si l'on ne s'était pas déplacé sur place.
Alors Patrice Muni nous a dressé un petit peu le plan des opérations. Donc après cette exposition, avant la construction d'un musée, que va-t-il se passer? Les pièces vont-elles être hébergées à Genève? Que va-t-il leur arriver?
Alors, elles le sont actuellement d'ailleurs. Ça a été une opération assez longue puisque les derniers objets sont arrivés en décembre. Et effectivement, maintenant nous avons 530 objets provenant de la bande de Gaza qui sont déposés à Genève. Donc, on a de quoi faire une exposition qui fera date. Jean-Baptiste et moi-même, ainsi que Marielle, toute l'équipe, on est en train d'œuvrer sur le catalogue qui accompagnera l'exposition. Ce sera donc un témoin qui durera un peu de cette exposition temporaire genevoise. Mais il y a, comme l'avait évoqué Patrice Muni, des intérêts pour reprendre l'exposition ailleurs, notamment à Bruxelles et à Athènes.
Mais toujours sous l'autorité du Musée d'Art et d'Histoire.
Alors, pas du tout. Là, nous sommes dans des partenariats, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'exposition se conclut à Genève, c'est le prochain musée qui serait intéressé de reprendre pour le montrer à son public cette exposition qui prend le pilotage pour cette exposition qui viendrait ensuite. On parle en l'occurrence de Bruxelles ou Athènes. Donc chaque musée est responsable de sa propre exposition. Par contre, nous avons eu le plaisir d'être les idéateurs, c'est-à-dire d'avoir l'idée de faire cette exposition et de la concevoir avec la sélection des objets que nous avons faits, d'une part dans ceux qui étaient entreposés à Paris et d'autre part dans ceux qui ont pu être visités dans la résidence de Javdat Roudari.
Donc les idéateurs, vous serez aussi ceux du futur musée, je pense.
Alors je pense qu'il est très important et il faut vraiment le souligner, on ne peut être que des facilitateurs. Je pense que l'essentiel dans l'affaire, c'est que cette idée de musée qui a été proposée, elle a trouvé un écho, elle a trouvé une résonance dans la société palestinienne. Alors, autour de cette idée de musée, il y a un conseil de fondation qui s'est créé pour le matérialiser sous la présidence de Ziad Abou Amr, ancien ministre de la Culture du gouvernement Abou Mazen, et qui peut-être, d'ici quelques temps, nous pourrons recevoir à Genève en tant que futur ministre, en nouveau ministre des Affaires étrangères. Ziad Abou Amr est un homme de culture. Il a su rassembler autour de lui une équipe de gens, que ce soit recteurs, des recteurs d'université, des puissances financières, pour matérialiser, grâce à des fonds privés, la construction du musée archéologique de Gaza. Et ce qui m'a impressionné dans cette démarche, c'est la maturité de la réflexion. Parce qu'on pourrait, si on ne connaît pas la difficulté de la tâche, se dire, bon, en 2 ans, on y va, et puis on verra bien où on arrive. Pas du tout. Il est venu présenter son projet en mars 2006 à la ville de Genève, en disant, voilà, nous avons un projet sur 10 ans. Nous sommes en 2006, nous espérons l'inauguration du musée en 2016. Donc là, je salue cette maturité. Pour une nation qui ne dispose pas de musée actuellement. Donc il y a vraiment une réflexion de fond qui a été menée. Et j'ajouterais, pour reprendre l'image que Jean-Baptiste nous a citée de la palestinienne qui passait au bord des mosaïques de Jabalia, et en sachant intimement que ces mosaïques étaient l'œuvre de ses ancêtres, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et à Genève et à Gaza, Jabba Wishash, qui est le vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Gaza, qui m'a dit, Marc, il faut que tu saches que que non seulement l'information qu'un musée archéologique pourrait voir le jour à Gaza est connue, mais qu'en plus c'est un thème de discussion dans les camps de réfugiés de Deir el-Balah et puis d'Al-Buruj, donc d'où il habite. Donc c'est un deuxième témoignage très direct que cette idée de présenter de manière durable le patrimoine de Gaza fait son chemin dans la société palestinienne en dépit de toutes les difficultés auxquelles cette même société est confrontée actuellement.
Je suppose que c'est la même discussion aussi parmi les archéologues, puisque cela, on peut quand même dire que c'est peut-être le couronnement de 20 ans d'activité dans la région, aussi bien pour vous, Jean-Baptiste Imbert, que Marc-André Aldiman. Vous trouvez peut-être devant un rêve d'archéologue de pouvoir imaginer un nouveau musée.
Alors, Jean-Baptiste.
Pas 20 ans, mais 10 ans, c'est déjà beaucoup. 10 ans de travaux qui aboutissent effectivement dans une perspective qu'on n'osait pas espérer formuler il y a 10 ans quand nous avons commencé, et qui finalement est une conclusion, je dirais, au-delà de la surprise, une conclusion bien normale. Est-ce que nous travaillons avec tant d'assiduité, tant de bonne volonté, tant d'énergie, est-ce qu'on investit tant de financement pour seulement une publication archéologique qui fait à la rigueur un beau livre? Non, il faut que cette mémoire dépasse le caisson des spécialistes, des savants et des érudits. Et moi, ma préoccupation majeure, changer l'image de Gaza qu'on a en Occident, mais c'est changer aussi l'image de Gaza pour les gens de Gaza. Les gens de Gaza doivent apprendre, et je sais qu'ils veulent apprendre, et ils doivent apprendre qu'ils sont un des peuples les plus anciens du Proche-Orient, avec un passé prestigieux, et que ce prestige est nécessaire.
Vous estimez que la situation de Gaza est peu connue
Mais je veux parler peu connue d'eux-mêmes. Et ce sont des gens, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans la description ou l'analyse d'un conflit, ce qui ne m'appartient pas, mais ce sont des gens fiers. Et qu'on a humilié. Et finalement, cette fierté, ils en ont besoin. Et il faut la leur restituer. Et je crois que l'archéologie, dans une petite mesure, peut contribuer à redonner cette fierté aux gens.
Par contre, Galliman.
Mais je pense qu'on touche au nœud crucial de l'affaire. Lorsqu'un peuple retrouve son identité, retrouve la richesse, la diversité de son passé, il ne peut qu'en ressortir enrichi, d'une part, fortifié, et avec une confiance dans l'avenir. Et ce qui fait cruellement défaut dans la région, c'est justement cette confiance dans l'avenir, puisque le quotidien est rythmé d'un désastre après l'autre. Et en l'occurrence, lorsque les gens de Gaza pourront se rendre dans leur musée pour découvrir comment leurs ancêtres ont vécu sur une distance dans le temps de plus de 5 millénaires, ce sera source de réflexion, ce sera source de fierté, comme on vient de le dire, ce sera aussi source de compréhension et de se connaître mieux soi-même et de bien se connaître. C'est un argument essentiel pour vivre avec les autres au sein d'une région qui est déchirée par le conflit qu'on connaît actuellement. Donc j'y vois, moi, une lueur d'espoir pour un avenir un peu différent pour la région. Et je retiens aussi du fait que les objets ont pu passer de Gaza à Genève actuellement projet culturel est peut-être une des seules choses qui permettent encore de mettre ensemble autour d'une table les parties en conflit actuellement au Proche-Orient. Et c'est fort de cette conviction que j'aurais envie de dire oui, effectivement, participer et soutenir un projet de musée actuellement à Gaza, en ce qui me concerne, c'est certainement un des aspects les plus importants de ma vie professionnelle.
Est-ce que vous bénéficiez aussi d'une collaboration des l'archéologue des pays environnements, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie? Est-ce que cela suscite, si vous voulez, dans la région, parmi aussi les pays islamiques, une volonté de collaboration, Jean-Baptiste Imbert?
Collaborer avec la Palestine est quand même assez difficile, puisque c'est complètement enfermé. Jusqu'à présent, le problème, c'est le problème des communications. Mais je crois que la Palestine est le seul pays qui reste au Proche-Orient et qui n'a pas de véritable archéologie développée, pas de musée, pas d'enseignement à haut niveau de l'archéologie et du patrimoine. Même les Émirats, qui ont un patrimoine intéressant mais beaucoup moins riche, se sont dotés des instances nécessaires. La Palestine est le dernier pays à n'en pas avoir. Donc ce que nous voulons faire, nous, et il ne m'appartient pas de donner le dernier mot, mais ce que nous voulons faire, c'est à travers cet effort, la main dans la main avec le peuple de Gaza, c'est essayer de leur redonner une stabilité. Ce que nous cherchons, c'est la stabilité. Stabilité politique, je m'en fous, mais enfin politique, peut-être pas grâce à nous, mais une paix sociale, une stabilité de consentement entre eux, puisqu'il y a quand même des groupes, et il faut qu'ils s'y retrouvent. Et c'est le dénominateur commun le plus adéquat que nous trouverons.
Marc-André Diemann, c'est donc un sujet que nous pourrons réaborder au mois d'avril, au moment de la présentation, qui s'inclut dans un cycle dont le titre peut être rapproché, le cycle de cette année des musées d'art et d'histoire, tout peut arriver.
Exactement. Gaza, la croisée des civilisations, tout peut arriver. Et bienvenue à toutes et à tous.
Marc-André Diemann, je rappelle que vous êtes conservateur responsable du département d'archéologie des musées d'art et d'histoire et que Jean-Baptiste Imbert est chargé du département d'archéologie de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Merci.